Théologie naturelle, 9 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous étions arrivés à la question du bien, le bien en général. Je vous avais dit que cette question était très intéressante. Elle est d'ordre critique, voyez. La théologie n'est pas très présente dedans. C'est vraiment d'ordre critique. Et à ce point de vue-là, elle est très intéressante pour voir comment le philosophe, le théologien, a besoin de ce regard de sagesse critique pour pouvoir utiliser la ratio boni par rapport à Dieu. D'habitude, saint Thomas ne le fait pas parce que la notion est déjà possédée, tandis que là, elle n'est pas possédée. Et c'est là où on voit l'originalité de saint Thomas. C'est sûrement que cette question-là est une des questions très originales pour saint Thomas, par rapport à son temps et par rapport à Aristote. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, nous avions vu le corps de l'article très serré, très dense, je le relis, pour que vous puissiez vous remettre dedans. Quant à leur réalité, le bien et l'être sont identiques. Secundum rem. Selon le réel. Ce n'est pas quant à leur réalité, vous comprenez ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Secundum rem. Selon le point de vue de la res, de la réalité. Ils sont le même. Sont identiques. Ils ne diffèrent que pour la raison. Et en voici la preuve. Donc ils ne diffèrent que secundum rationem, que selon leur intelligibilité. Je crois que c'est encore ça qui traduirait le mieux pour nous. Donc selon leur intelligibilité, ce n'est pas la même chose de regarder une réalité en tant qu'elle existe et de la réalité en tant qu'elle est bonne. C'est du très gros bon sens. On vous donne une pomme, comme elle est belle, hein? Est-ce qu'elle est bonne? Pas toujours. Et c'est ce que vous vous interrogerez, vous demanderez ça à une pomme, donnez-moi de bonnes pommes, donnez-moi du bon pain, on n'est pas seulement du pain, mais du bon pain. Donc au fond, nous distinguons dans le langage courant, et dans notre expérience courante, nous distinguons toujours la réalité en tant qu'elle existe et la réalité en tant qu'elle est bonne. Vous voyez, c'est la distinction que fait saint Thomas ici. Donc, secundum rem, secundum rationem. Alors, ça, il faut essayer de le saisir. Hein. Cette distinction, elle est importante. Selon la réalité, c'est vrai, le bien implique l'existence. Et donc, si le bien implique l'existence, on peut dire que selon l'arrêté, c'est identique. On est bon dans la mesure où l'on existe. C'est vrai. Alors, saint Thomas va préciser. La notion de bien, la ratio boni, la raison de bien, l'intelligibilité du bien, consiste en ceci, que la chose qualifiée bonne s'offre comme désirable. Donc, on passe du bon au désirable. Alors, le désirable traduit l'appétibilité. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, désirable est quelque chose de plus subjectif que appétibilité. Donc, le bien, disons, est appétible. Hein, ça, on traduit très très bien. L'appétibilité, c'est difficile à traduire en français. Le bien, c'est ce qui exerce une force d'attraction. C'est ça l'appétibilité. Donc la notion de bien consiste en ceci, que la chose qualifiée bonne s'offre comme appétible. Ainsi le philosophe définit le bien, ce que tous désirent. Cette fameuse chose qui n'est pas une définition du bien, mais qui est tout simplement une description. Bonum quod omnia appetunt. Le bien, c'est ce que tous désirent, qui suscite en nous un appétit. Or, manifestement, une chose est désirable selon ce qu'elle a de perfection. Le fondement de l'appétibilité, c'est la perfection. Ça, facile à comprendre. En outre, rien n'est parfait que selon ce qu'il est en acte. La perfection, l'être en acte. Vous voyez comment on va du bien à l'être en acte. Donc, rien n'est bon que selon ce qu'il est être. Être en acte, est. In quantum autem perfectum, in quantum est in actum, unde manifestum est, quod in quantum est aliquid bonum, in quantum et es. Autant il est être, autant il est bon. Dans la mesure même où il est être, dans la même mesure il est bon. Dit ce petit raisonnement avec ces trois intermédiaires. Ces trois métactions pour arriver à passer du bien à l'être. Tout ce qui est inclus dans le bien. Cette espèce d'analyse, hein, très très curieux, ces trois niveaux que nous creusons dans le bien. L'appétit, la perfection, l'être en acte. Ce qui nous permet de trouver l'être et de rejoindre. Rien n'est bon que selon ce qu'il est être. Car l'être est actualité de toute chose, comme on l'a vu précédemment. Ainsi, il est clair que le bien et l'être, quant à leur réalité, sont une même chose. Mais le bien ajoute à la raison d'être celle d'appétibilité, celle d'appétible, qui lui est étrangère. On voit à la fois, vous voyez, c'est ça l'intérêt, on voit à la fois comment il y a identification selon la réalité existentielle du bien et de l'être, et comment il y a par rapport au bien quelque chose de particulier que l'être ne dit pas, le point de vue de l'appétit. L'être comme être ne dit pas l'appétibilité. J'existe, donc je suis appétible. Non. Je suis bon, donc je suis appétible. Comment se fait-il qu'il y a des êtres qui attirent et des êtres qui n'attirent pas? Et tous existent. Les fameux atomes crochus, vous savez, les atomes crochus, c'est l'appétibilité. Plus vous êtes bon, plus vous avez des atomes crochus. C'est une manière de tendre vers la perfection. Non, et ceci grâce à votre perfection. Et ceci parce que vous êtes en être en acte. Donc vous êtes parfaitement être. Je crois que ça, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est très difficile à pénétrer jusqu'au bout. Et c'est très facile à comprendre. qu'une difficulté. La pétabilité, la perfection, tout à fait ça. Et tout ça, c'est compris dans le bien. Oui. Oui. Ce genre de raisonnement, hein, espèce de réduction, c'est un raisonnement très particulier, c'est un raisonnement critique. Vous voyez que la ratio boni implique la ratio entis. Et la ratio boni implique la ratio entis parce que la ratio entis implique le remarque, implique la perfection. Second aspect qui va être particulièrement intéressant, c'est la réponse à la première objection. Il semble qu'en effet, le bien et l'être diffèrent réellement. Ça, c'est l'objection. On va aller jusqu'au bout. On veut passer de la distinction formelle à une séparation réelle. Voilà l'objection. Car Boès dit « Je vois ceci dans les choses, qu'autre est leur être, autre leur objet, autre leur bonté. » Vous voyez, c'est allo, allo, autre, autre. Alors, réponse de saint Thomas. Cette réponse est très belle. Cette doctrine rend compte aussitôt de la pensée de Boès, car ça c'est de la glose marginale, hein. Car le bien et l'être ont beau se trouver identiques en réalité. Alors, bien que le bien et l'être sont identiques selon la réalité, secundum rem. Parce que, cependant, ils diffèrent selon leur intelligibilité. Non de la même manière, quelque chose est dit être simpliciter et bon simpliciter. Alors, vous voyez, c'est très astucieux. Pour bien mettre en lumière la différence selon l'intelligibilité, on prend dans les écrans simplicitaire. On prend le bien simplicitaire. C'est très astucieux. On pousse la notion d'être le plus loin possible. On pousse la notion de bien le plus loin possible. On gonfle le ballon. Et la raison là, oup, immédiatement, on s'aperçoit que ce n'est plus du tout la même chose. Vous voyez le procédé, hein, c'est très très joli comme procédé. Ici, on raisonnait uniquement sur ratio body, ratio entis. Et on voyait que si je mets entre parenthèses ratio, et je regarde le bien et l'être, ah, identique selon la réalité. Si je mets ratio, c'est distinct. Les rationnés sont distincts. La ratio, un ratio est très difficile, hein, très, très difficile à traduire, la notion, l'intelligibilité. Mais la ratio implique toujours quelque chose qui est dans la réalité. Et c'est ce que l'intelligence saisit de la réalité, c'est ça la ratio. C'est ce que l'intelligence saisit de la réalité. C'est ce que l'intelligence est capable de saisir de la réalité. Ça, c'est la ratio boni, la ratio entis. Donc là, c'est la rationnelle. Ici, on prend un autre procédé. Et c'est très astucieux, ces deux procédés. Un autre procédé, c'est de mettre bonum simplicitaire, es simplicitaire. Mais ici, c'était la ratio, là, c'est simplicitaire. Très astucieux procédé. Donc, ça n'est pas dit de la même façon. Quelque chose n'est pas dit de la même façon. Ens simpliciter et bonum simpliciter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le simpliciter? Le simpliciter traduit le grec apollos. Tout plus clair. Hein, apollos. Le grec apollos, simpliciter. C'est-à-dire la réalité prise indépendamment de tout le reste et uniquement en elle-même. Alors, quelle différence y a-t-il entre le simplicitaire et ratio? Ça, ce serait très intéressant à voir. Parce que, de fait, vous avez le raisonnement du corps de l'article qui met en lumière ratio boni et ratio entis. Si vous ne regardez pas ratio, et vous regardez seulement bien l'être, vous dites identique selon la réalité. Si vous regardez les rationnels, pas diffère. Devant l'objection, on prend non plus les rationnels, mais le significatif. Alors, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est le même raisonnement de regarder les rationnels ou simplicitaires? Hein, c'est astucieux. C'est ce que fait saint Thomas. Le bien pris d'une manière absolue. C'est ça le simplicitaire. C'est le bien pris d'une manière absolue. C'est l'être pris d'une manière absolue. Vous allez voir du reste au raisonnement. Car lorsque l'être est dit proprement être en acte, or l'acte a proprement l'ordre vers la puissance. Selon cela, quelque chose est dit d'une façon absolue être, selon qu'il est premièrement discerné, donc distingué, de cela qui est l'être en puissance. L'être émerge dès que je suis en acte et dès que je distingue la puissance. C'est l'émergence de l'être, vous voyez ? Ça, c'est très, très beau de voir ça. Cette émergence de l'être. Eh bien, l'émergence de l'être se fait au moment où on distingue l'être en acte, distingue de l'être en puissance. Donc le simplicitaire conduit à essayer de saisir le premier moment, la nativité, l'émergence. C'est ça qui est indiqué dedans. Or, cela est l'être substantiel de chaque réalité. La première émergence de l'acte, c'est la substance. Cela est esse substantiale unius cuius cuqueri. D'où, par son esse substantiel, chacun est dit être simplicitaire. Donc, par son esse substantiel. Chacun est dit être simplicitaire. L'être est dit d'une manière absolue dans sa substance. L'être est dit d'une manière primordiale dans sa substance. Donc le simplicitaire. Par l'acte, par les actes surajoutés, par les actes surajoutés, quelque chose est dit être secundum quid. Dès qu'à la substance, vous ajoutez quelque chose, des qualités. Prenez la pomme. Substantiellement, c'est la pomme. Oui, c'est une pomme, je vous affirme. C'est une pomme, c'est vraiment une pomme. Est-ce qu'elle est bonne? Ah, il faut des qualités particulières. Mais les qualités s'ajoutent à la pomme en tant qu'elle existe. Pour être bon, il ne faut pas seulement exister. Il faut quelque chose de plus. Il faut des qualités qui viennent s'ajouter. Par les actes surajoutés, quelque chose est dit être d'une façon secondaire. Comme être blanc est signifié être secundum quid, d'une façon secondaire. En effet, être blanc est laissé. Non enim esse album, ce n'est pas l'être blanc qui vient supprimer la potentialité de l'être, puisque ça vient s'ajouter à la chose qui existe déjà. C'est bien évident, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Donc ce n'est pas ce qui va faire sortir de l'émergence de la puissance. Mais le bien, il dit la raison de perfection, ce qui est appétible. Et par conséquent, il dit la raison d'ultime. Le bien, alors voilà ce qu'on vient d'ajouter. On va ajouter que le bien dit la raison ultime. Pardon, je me suis trompé, hein, vous voyez bien, parce que substantiel, c'est ici. En réalité, parce que c'est le bien, la ligne du bien, la ligne de l'être. La ligne de l'être, maître C'est le critère, c'est l'essai substantiel. Les qualités, c'est quelque chose de second. Tandis que la substance est première. Quand il s'agit du bien, au contraire, c'est quelque chose d'ultime. Le bien dit la ratio ultime, la raison ultime. Le bien, c'est toujours ce je pousse le plus possible le bien, puisque ça implique le point de vue de la perfection. D'où cela qui est parfait d'une manière ultime est dit le bien simplicitaire. Le bien simplicitaire, c'est celui qui est parfait, je ne peux rien lui ajouter. Alors il est bon. Ce qui n'a pas la raison, ce qui n'a pas la perfection ultime qu'il devrait avoir, quoi qu'il ait une certaine perfection en tant qu'il est en acte, n'est pas dit parfait d'une façon absolue. Ni il n'est pas dit bon d'une façon absolue, mais d'une façon secundum quid. Ainsi donc, c'est ici la conclusion. Vous voyez, le raisonnement est très très joli. Hein. C'est le dicitur par rapport à ce qu'il y a de premier et par rapport à ce qu'il y a de second. On est dit être premièrement par la substance. On est dit être en second lieu par les qualités. On est dit bien premièrement parce qu'il y a d'ultime. Et on est dit bien d'une façon seconde par des choses fondamentales. Donc c'est juste inverse le point de vue du bien et de l'être. Ainsi donc, selon le premier essai, qui est l'essai substantiel, quelque chose est dit, ens simplicitaire. Et il est bon, secundum quid, c'est-à-dire en tant qu'il est être. Selon l'ultime, secundum ultimum, l'ultime acte, quelque chose est dit, être, secundum quid. Il est dit bon, simplicitaire. Ainsi donc, Boès dit que dans les choses, autre est ce qui est bon, autre ce qu'elles sont, en tant qu'elles existent. Il faut donc se référer vers l'essai bonum et vers l'essai simplicitaire, parce que selon le premier acte, quelque chose est être simplicitaire, selon l'ultime, il est bien simplicitaire. Et cependant, selon le premier acte, il est d'une certaine manière bon, et selon l'ultime acte, il est d'une certaine manière être. Et ça, c'est très, très... C'est subtil, c'est très joli. Alors, on va essayer de réfléchir là-dessus. Hein. On va essayer de réfléchir, une fois ce texte de saint Thomas, on peut le comprendre, logiquement, on arrive à le comprendre. Ce qu'il faut, c'est essayer de voir pourquoi, d'un côté, c'est les rationnels, et de l'autre côté, c'est le simplicité. C'est astucieux comme chose, hein. Il fallait le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, ceci, on dit, c'est évident. C'est bien évident. Prenez l'exemple de la pomme. Cette pomme existe. Ce n'est pas les mêmes critères. Vous voyez, vous diriez ça dans un langage moderne. Ce n'est pas les mêmes critères qui nous font dire que cette réalité existe et que cette réalité est bonne. Ça, vous pouvez dire ça. Ça, vous comprenez tout de suite. Ce ne sont pas les mêmes critères qui nous font dire qu'une réalité existe et qu'une réalité est bonne. Le critère qui nous fait dire qu'une réalité existe, c'est l'aspect substantiel. Les critères qui nous fait dire qu'une réalité est bonne, c'est l'aspect ultime. Donc il y a deux critères différents. La substance est fondamentale, l'ultime, c'est l'aspect dernier. Et donc le critère qui nous fait dire qu'une chose est bonne, c'est la ratio ultimi. Et le critère qui nous fait dire qu'une chose existe, c'est la raison fondamentale. Vous avez donc deux critères extrêmes qui séparent l'être et le bien. Et par là, vous voyez bien que les raisons sont différentes du rien et de l'être. Alors, pourquoi d'un côté donc, je crois que ça, on peut le comprendre facilement et raisonner de cette manière-là, tout simplement. Parce qu'il s'agit du critère. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une réalité est être ? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une réalité est bonne ? Eh bien, vos critères sont différents. Et réfléchissez dans votre vie, vous voyez que les critères sont tout à fait différents. Puisque d'un côté, vous revenez à la substance, et de l'autre côté, vous prenez la ratio ultimis. Alors, quelle différence y a-t-il, si je reviens sur le raisonnement de saint Thomas, quelle différence y a-t-il de regarder la ratio bonus et de dire le bien simplitudinaire? C'est très clair que c'est deux langages différents. Il y a un langage aristotélicien et un langage néoplatonicien. L'aplos, il est employé par Aristote, mais il est surtout employé par Platon. L'aplos, le simplicitaire. Pourquoi? Parce que simplicitaire, c'est quoi? C'est une manière d'exister. Et la ratio, ce n'est pas une manière d'exister. Être simplicitaire, c'est une manière d'exister. J'existe dans la simplicité même de mon être. J'existe dans la nudité de mon être. Rien n'est ajouté. Uniquement la simplicité. Donc c'est une manière d'exister, le simplicitaire. C'est l'aplomb. Tandis que la ratio, ce n'est pas du tout la manière d'exister. Vous voyez, il y a deux raisonnements tout à fait différents qui sont complémentaires, qui sont très très beaux dans leur complémentarité. D'un côté, je regarde les rationes. Et de l'autre côté, je regarde, pour bien comprendre la différence entre les deux, puisqu'il s'agit de comprendre toute la distance qui existe entre le bien et l'être, je me sers alors de la manière d'exister. De la manière d'exister dans ce qu'elle a de plus radical, de plus simple. Simplicité. Eh bien, la manière d'exister du bien et la manière d'exister de l'ens, c'est différent. C'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est très beau. La manière d'exister, hein, la manière d'exister de l'être et la manière d'exister du bien ne sont pas les mêmes. On pourrait dire les mœurs du bien et les mœurs de l'être ne sont pas les mêmes. Il y a deux manières différentes. L'être, sa manière d'exister, c'est de réclamer tout de suite la substance. Il n'est que lorsqu'il existe substantiellement. Le bien, sa manière d'exister, c'est tout de suite de regarder ce qu'il y a d'ultime. Le bien, comme tel, touche ce qu'il y a d'ultime. Ça, c'est les mœurs du bien. Oui. C'est de regarder de l'ultime. Pourquoi? Parce qu'il regarde le point de vue de la perfection, l'appétibilité. Alors, il regarde ce qu'il y a d'ultime. Et tout le reste est second. C'est secondum quid. Que la pomme existe. Oui, c'est secondaire par rapport à sa bonté. Il faut bien qu'elle existe pour qu'elle soit bonne. Mais ce n'est pas ça qui fait sa bonté. Tandis qu'au contraire, qu'elle existe, ah, c'est justement ça l'essentiel. C'est que c'est une pomme. Le to einai à la pomme. Le to einai à la pomme, c'est ça. C'est que cette pomme existe. Tandis que s'il s'agit du bien, c'est pas le to einai la pomme, mais c'est le to einai. C'est la pomme dans son état de perfection. Alors elle est bonne. Dans son état de perfection. Alors elle est simpliciter bonum. Donc j'espère que vous saisissez ça, parce que ça c'est très très intéressant. C'est la rencontre dans saint Thomas de deux manières de regarder. L'analyse et le jugement existentiel dans la manière d'exister. C'est très rare qu'on a les deux comme ça immédiatement. C'est pour ça qu'à première vue, on dit c'est curieux. C'est la ratio et le simplicité. Bon, je crois que c'est ça l'essentiel de cet article premier. Vous allez voir, on va s'habituer petit à petit. Hein, on entre dans cette question qui est difficile. Mettre en parallèle le bien et l'être. Et vous voyez, derrière tout ça, il ne faut pas oublier pour dans saint Thomas. Hein, derrière tout ça, il y a le désir de saint Thomas de montrer qu'il n'y a qu'une seule métaphysique, la métaphysique de l'être. Qu'il n'y a pas une métaphysique particulière, la métaphysique du bien. Mais il y a quelque chose du bien qui est irréductible à la métaphysique et qui doit être saisi en dehors de la métaphysique. et qui est saisie par l'éthique. L'éthique me dit quelque chose que la métaphysique ne dira jamais. Et la métaphysique dit quelque chose que l'éthique ne dira jamais. Ils sont irréductibles, il faut les deux. C'est pour ça que je ne peux pas parler de la personne humaine sans regarder le point de vue métaphysique, sans le point de vue éthique. Oui, l'être et le bien. C'est capital, c'est le gros problème d'aujourd'hui, vous savez. Dans quelle mesure la phénoménologie peut-elle supprimer la métaphysique ? Si la métaphysique était une métaphysique du bien, je me ferais phénoménologue. Puisque la métaphysique est la métaphysique de l'être, je garde la philosophie première de l'être. Alors, est-ce que c'est une manie de vouloir parler de l'être ou supprimer ? Et puis, soyons tout simplement Dieu sans l'être et la métaphysique sans l'être ayant une métaphysique du bien. Celle-là, elle est chrétienne. Tandis que la métaphysique de l'être, elle est païenne, c'est celle d'Aristote. J'aime beaucoup mieux la métaphysique du bien. Bien, vous ne pouvez pas faire une métaphysique du bien. Vous pouvez faire une éthique du bien, mais pas une métaphysique du bien. Ça, il faut en avoir la conviction intellectuelle. Tant que vous n'aurez pas la conviction intellectuelle de ça, vous aurez le désir de faire une métaphysique du bien et de dire c'est beaucoup mieux de faire une métaphysique du bien. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus utile. Celle-là, elle est sainte, cette métaphysique du bien. Elle est chrétienne. Afin d'avoir la conviction, eh bien, c'est cette question qui doit nous aider à pénétrer dans cette manière-là. Et alors là, on voit très bien comment saint Thomas, vous voyez, montre le lien entre Aristote, Augustin. Aristote, Platon. Ce petit article, hein, c'est un jugement extraordinairement profond sur la philosophie d'Aristote et celle de Platon. C'est le jugement le plus profond qu'on a donné. Aristote, c'est l'être, Platon, c'est le bien. Alors, soyez Anne de Buridan, en face du bien, en face de l'être, et puis toute votre vie, vous regardez la botte être, la botte bien, et vous savez bien, il en crève, hein, parce qu'il ne peut pas choisir. Les deux. Alors ça arrive, il y a des gens qui restent perpétuellement entre les deux. J'incline d'un côté, j'incline de l'autre. Alors, c'est quand même très beau de voir la primauté de l'être du côté de la substance, du côté de l'intelligibilité, et la primauté du bien dans un autre ordre, ce qu'on va voir du reste. Alors le bien est-il logiquement antérieur à l'être ? Traduisez, Platon est-il logiquement antérieur à Aristote ? Vous voyez, alors immédiatement ça devient un guignol merveilleux, n'est-ce pas, entre Aristote et Platon. Le bien est-il logiquement antérieur à l'être ? Alors logiquement, c'est très mal traduit, je regrette. C'est le bien est-il du côté de l'intelligibilité antérieur à l'être. C'est secundum rationem. Vous ne pouvez pas traduire le secundum rationem logiquement. Et j'espère que vous voyez pourquoi. La ratio n'égale pas. La ratio, c'est logos. La ratio n'égale pas être de raison. Ça, c'est logique. Que la ratio fonde l'être de raison, d'accord. Mais l'être de raison n'est pas adéquat à la ratio. Alors, voyons tout de suite. C'est aussi une chose très belle. Il est dit dans le livre des causes que la première des choses créées est l'essai. Que la première des choses créées est l'essai. Le point de départ d'une réponse exacte est celui-ci. Ça aussi, c'est une glose marginale. Ça se sent tout de suite. Il faut dire que l'être, selon la raison, est prius que le bien. Ça, il faut dire. Il faut répéter, il faut comprendre cela. Alors, le significant d'un mot et ce que l'intelligence conçoit touchant la chose à laquelle ce mot s'applique. Oui, pas très commode à comprendre. Prenez le latin, c'est plus clair. Ça vous encourage à faire du latin, ça. La ratio significata. Ah, vous avez la ratio significata. Ratio boni, ratio emptis. La ratio significata. Per nomen, la raison signifiée par le nom. Et ce que conçoit l'intelligence de la chose. Ce que l'intelligence conçoit de la chose et la raison signifiée par le nom. Quand vous concevez quelque chose d'une réalité, vous l'exprimez par le nom. Vous dites pomme. Hein, la pomme. Quand vous dites pomme, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous signifiez ce que vous avez saisi de cette réalité, de ce fruit. Vous dites, ce fruit, c'est une pomme, c'est pas une poire. C'est une pomme. Il a la même couleur, mais ça fait rien, pas la même forme. C'est une pomme. Je vous affirme. Ratio significata per nomen. Est il quod concipit intellectus de re. Donc la raison signifiée par le nom est cela ce que l'intelligence conçoit de la réalité. Et elle le signifie par la voix, par la parole. Cela donc est premier selon la raison, selon l'intelligibilité. Ce qui premièrement tombe dans la conception d'intelligence. Prius cadit in conceptione intellectus. Or, ce qui tombe en premier dans la conception de l'intelligence, c'est ens. Primus cadit in intellectu. Ens, Avicenne qui a dit ça, que saint Thomas reprend. Parce que selon cela, chaque chose est connaissable en tant qu'elle est en acte. Comme il est dit dans les métaphysiques. D'où, ens, donc ce qui est, l'ens, est le propre objet de l'intelligence. Et ainsi, il est premièrement intelligible, il est le premier intelligible, comme le son est le premier audible. Ainsi donc, selon la raison, secundum rationem, l'ens est premier que le vivant. Ça, c'est très capital. Vous voyez, ça, c'est de... Saint Thomas veut montrer là que la métaphysique ne peut être que la métaphysique de maître. Donc, si vous voulez comprendre comment la métaphysique ne peut être que la métaphysique de l'être, et Aristote avait raison de dire que la philosophie première, c'est la philosophie de ens in quantum ens. Eh bien, ça, c'est le lieu où saint Thomas montre la justification. Et vous voyez sur quoi repose cette justification. Cette justification repose sur l'expérience même de votre pensée. Vous n'avez qu'à réfléchir sur vos opérations de pensée intellectuelle et vous verrez immédiatement que l'être est avant le bien. Alors, la réflexion de saint Thomas, c'est très important. Il y a deux petites phrases. Hein. C'est très extraordinaire. Justification de la métaphysique de l'être repose sur ces deux petites phrases. Eh bien, c'est que ce qui cadite, ce qui tombe en premier dans la conception de l'intelligence, c'est ens. C'est l'être. Ens id quod est. Ce qui est. C'est ce qui est qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, dans la conception, in conceptione. Primus cadit in intellectu. Cette fameuse phrase. Hein. Vous savez que saint Thomas emploie cette phrase, il y a eu une thèse qui s'est faite, petite thèse facile à faire, à la grégorienne, petite thèse facile à faire, en mémoire de licence, qui a relevé toutes les fois où saint Thomas disait ça. Je crois qu'il l'a dit 190 fois dans son œuvre. Primus cadit in intellectus est. Qu'il le savait par cœur à la fin. Ce qui est, tombe en premier lieu dans l'intelligence, ens. On voit l'importance. Hein. Et alors, voyez, quand saint Thomas, ici, c'est très rare que saint Thomas l'explique, parce que, quia, parce que, selon cela, chacun est connaissable qu'il est en acte. Ah, c'est l'acte qui me permet de comprendre que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est l'acte. Parce que chacun est intelligible, chacun est connaissable, cognoscibile, chacun est connaissable en tant qu'il est en acte. Si chacun est connaissable en tant qu'il est en acte, nécessairement, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ens, c'est-à-dire ce qui est. Ce qui est en acte. Eh bien, c'est le premier connaissable. Et c'est le premier connaissable de l'intelligence, comme, saint Thomas donne l'exemple, comme ce qui est premier par rapport à l'audible, c'est le son. La première chose que vous entendez, c'est le son pour l'oreille. Et bien, pour l'intelligence, c'est ce qui est. Le premier connaissable, c'est ce qui est en acte. Alors, vous comprenez bien que si la métaphysique regarde ce qu'il y a de premier, de fondamental dans la vie de l'intelligence, la métaphysique regarde donc nécessairement ce qui est. Et donc la métaphysique ne peut être que la métaphysique de l'être. Dites ça à Marion. À tous ceux qui veulent rejeter la métaphysique de l'être. La première chose que je connais, c'est ens. Parce que le premier connaissable, premier cognoscibile, c'est ce qui est en acte. Or, je ne suis pas en acte par le bien, je suis en acte par l'être. C'est l'être qui existe. C'est ça qui fait l'acte et qui rend les choses connaissables. L'intelligibilité est une propriété de l'être, pas du bien. C'est une propriété de l'être, l'intelligibilité. Chaque chose est intelligible en tant qu'elle est, en tant qu'elle existe. Et donc c'est ce qu'il y a de premier. Et c'est pour ça que la métaphysique qui regarde ce qu'il y a de plus fondamental et d'ultime dans la vie de l'intelligence, ça ne peut être que la métaphysique de l'être. Donc, la raison de l'être est antérieure au bien. Selon secundum rationem, selon l'intelligibilité. Selon l'intelligibilité, l'être passe avant le bien. Le bien doit laisser passer l'être devant, dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est-à-dire dans l'ordre de la relation vis-à-vis de l'intelligence. Face à l'intelligence, le bien s'efface pour laisser passer devant l'être. C'est très très beau ça, hein ? C'est très intéressant pour bien comprendre le fondement d'une métaphysique de l'être. Donc, on peut dire de cette manière-là, pour essayer de le reprendre d'une autre façon, on peut dire que si nous reconnaissons que la métaphysique est une métaphysique de l'être et qu'elle ne peut être qu'une métaphysique de l'être, c'est parce que nous avons découvert qu'au plus intime de notre activité intellectuelle, notre activité de pensée, notre cogito, l'être était toujours présent. Je ne peux rien penser sans l'être. Donc celui qui refuse de mettre l'être avant le bien, ça prouve qu'il ne pense jamais. C'est terrible. Hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que dès que je pense quelque chose, je pense l'être. Il ne peut pas être autrement. Le premier connaissable, il est en acte. Comme le son, c'est comme quelqu'un qui dirait, moi, ah, j'entends, mais j'entends pas le son, j'entends rien du tout, ah non, le son, ah, non, non, j'entends, mais sans le son. Alors la mise entre parenthèses du son. Comme celui qui voudrait dire, je vois sans la lumière. Non, non, toujours, quand vous voyez toujours la lumière. Et quand vous entendez toujours le son. Alors, il y a des tas de choses qui viennent s'ajouter, c'est évident. Mais c'est premier. Donc je ne peux rien entendre sans le son, je ne peux rien voir sans la lumière. Je ne peux rien saisir intellectuellement sans l'être. Oui. Alors ça, c'est très très important. Hein. Vous voyez que là, on est... C'est extraordinaire. En théologie, hein, saint Thomas donne l'aspect fondamental au plan critique de la métaphysique de l'être. Alors, soulevez toutes vos objections là-dessus. Hein. Il faut les noter, toutes vos objections. Parce qu'il faut essayer de faire que ça, ce soit net. Ce soit une évidence intellectuelle pour vous. Pas un a priori. Métaphysique de l'être parce qu'Aristote le dit. Non, métaphysique de l'être parce que je veux être intelligent.